Dans mon métier de coach, où j'accompagne des personnes dans le monde du travail, j'entends souvent des propos du type « Mon métier a-t-il encore du sens ?» Je travaille dans un contexte qui est tellement loin de mes valeurs spirituelles, l'entraide, la solidarité, la bienveillance sont absents. On ne parle que de crise, d'argent, de rentabilité. Le chiffre d'affaires est une obsession. Il règne un climat de peur, de méfiance, de suspicion. Je me sens clivé entre les réalités de mon quotidien au travail et mes aspirations spirituelles. Or, il existe un lien entre la sagesse biblique et les réalités du monde du travail. La Bible peut inspirer nos comportements avec nos clients, nos collaborateurs, nos collègues. Elle permet un changement de regard sur nos modes de management, les conflits avec les autres, la gestion des crises et des épreuves. La sagesse biblique peut éclairer notre manière d'exercer le pouvoir, notre projet professionnel ou notre relation à l'argent. Aussi, la finalité proposée ici est de permettre à chacun de mieux harmoniser sa vie professionnelle et sa vie spirituelle. Le principe de laïcité veut qu'il n'y ait pas d'interférence entre la société civile et le monde religieux. Et il est donc très délicat d'évoquer des propos à caractère spirituel dans le monde du travail. C'est pourquoi nous approcherons la Bible principalement dans sa dimension symbolique et non pas dans son aspect historique ou confessionnel. Notre présupposé est que les tribulations que nous vivons dans nos vies professionnelles et personnelles sont en résonance avec les tribulations rencontrées par les personnages bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament. Notre histoire est en résonance avec leur histoire, leurs doutes, dilemmes, conflits, crises, passions, épreuves, racontent les nôtres aujourd'hui. Observer leur manière d'être et de faire constitue donc un miroir de nous-mêmes chargé d'enseignement. Pour dire juste quelques mots sur moi, Alain Seton, en tant que consultant en management et en développement des ressources humaines, où j'accompagne le changement, je situe mon engagement au croisement du monde du travail, de la psychologie et de la Bible. Ces trois univers sont en général étrangers les uns aux autres, mais j'ai découvert la richesse qu'il y a à établir des ponts entre eux, sachant que les trois concernent l'homme dans sa quête de sens, de vérité et de transcendance. Quel rôle peut jouer l'éthique dans notre contexte ? L'éthique peut constituer un trait d'union entre les deux univers que sont la Bible et le monde du travail. Je définirais l'éthique comme un système cohérent entre des valeurs humanistes et les comportements associés à ces valeurs. Prenons un premier exemple. Dupont se veut être un manager participatif, ouvert, à l'écoute, encourageant progrès et remise en cause. Or, lorsque certains de ses collaborateurs lui font des propositions d'amélioration, il est peu disponible, formule très vite des objections et se montre peu enclin à mettre en place des idées qui ne viennent pas de lui. Un deuxième exemple, Durand est un médiateur en gestion de conflits. Il écoute les points de vue des parties adverses et fait efficacement entre eux un travail de conciliation et de négociation. Cependant, lorsqu'il est lui-même impliqué dans des conflits, il évite la confrontation, il se ferme au dialogue et à toute forme personnelle de remise en cause. Au regard de la définition proposée, Dupont et Durand ont une difficulté éthique puisque leurs comportements ne sont pas cohérents, ne sont pas alignés, ne sont pas congruents avec des valeurs humanistes et nobles dont ils sont porteurs. Si on part de l'idée que les personnages et histoires bibliques parlent de notre propre histoire, nous pouvons regarder la Bible en faisant une lecture dans l'intériorité. On peut en effet parler de mythe biblique, sachant qu'un mythe est une histoire dans l'extériorité, c'est-à-dire extérieure à nous, qui est en résonance avec notre propre histoire dans l'intériorité. Prenons quelques exemples. Dans le chapitre 1 du livre de la Genèse, Dieu dit à l'homme et à la femme « Soyez féconds, remplissez la terre et l'assujettissez. » Dans une lecture extérieure, assujettir la terre peut être lu comme une invitation à l'exploiter inconsidérément et risquer d'aller vers l'épuisement de ses ressources avec toutes les dérives écologiques possibles. Si on lit le verset dans l'intériorité, on comprend qu'il s'agit de notre terre intérieure que nous sommes invités à assujettir, à dominer et à cultiver. Et cela nous invite à un travail sur nous-mêmes. Dans le chapitre 2 du livre de la Genèse, Dieu demande à l'homme de donner des noms à tous les bestiaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes sauvages. On peut se demander pourquoi Dieu a besoin de l'homme pour donner un nom à chaque animal. Or, donner un nom signifie nommer, donc symboliquement maîtriser, mettre de la conscience, dominer sur. Il s'agit donc pour nous de dominer sur nos animaux intérieurs. Chacun pourra s'interroger sur la nature de ses propres animaux intérieurs. Quelle est la partie de moi qui est comme du bétail, mon côté passif, qui se laisse faire, qui rumine? Et les oiseaux du ciel, est-ce mon mental qui n'arrête pas de virevolter, mes pensées qui ne cessent d'aller et venir? Et les bêtes sauvages en moi, que sont-elles? Ma jalousie, mon côté colérique, ma possessivité, ou encore l'agressivité dont je suis capable quand j'estime mon territoire menacé? Donc nommer nos animaux intérieurs nous permet d'élargir notre champ de conscience. Dans les évangiles, les pharisiens peuvent être regardés comme une partie de nous-mêmes. C'est, par exemple, ils représentent notre côté dogmatique, davantage centré sur la loi que sur le cœur. La prostituée peut nous questionner sur quelle est la prostituée en soi, quelles sont les compromissions qu'on accepte et les bénéfices qu'on en retire. Le fils prodigue revient vers la maison du père après bien des errances. Il y est accueilli à bras ouverts. Individuellement, cela peut parler de nos errements personnels vis-à-vis desquels nous faisons un chemin de retournement. Ainsi, toute la palette des comportements, des émotions et des aventures humaines se retrouve dans l'histoire biblique et nous rejoignent dans notre propre histoire. Alliance, trahison, crise, épreuve, amour, amitié, cupidité, don de soi, malveillance, bienveillance, foi, espérance, tout cela et bien d'autres se retrouvent dans la Bible et s'offrent à notre contemplation et notre méditation.